vida, tú no la podrás encontrar, compadre, en cualquier lugar. El bochito y la bochita te brindarán su amistad.
Voy a Yucatán, compadre, te voy a bailar un poco. La gente de aquella tierra baila bonito y sabroso.
Y cuando quieras comer y darle gusto al paladar, te brindarán unos guisos que el dedo te chuparás. Tú no lo podrás encontrar, compadre, en cualquier lugar. El bochito y la bochita te brindarán su amistad.
Voy a Yucatán, compadre, que voy a bailar un poco. La gente de aquella tierra baila bonito y sabroso.
Mérida es la capital de la tierra del Mayap. La leyenda y la cultura que tiene Chichen Itza, tú no la podrás encontrar, compadre, en cualquier lugar. El bochito y la bochita te brindarán su amistad. ¡Vamos a Yucatán!
Voy a Yucatán, compadre, me voy a bailar un poco.
Por el paseo Montejo me quiero ir a recrear.
Voy a Yucatán, compadre, me voy a bailar un poco.
Me voy a comer paisán, me voy a gozar un poco.
Voy a Yucatán, compadre, me voy a bailar un poco.
Voy a bailar la jarana, su baile tradicional.
De tous les archéologues qui vont contribuer petit à petit à attirer les Mayas de l'ombre, je crois qu'il faut maintenant nous intéresser à Edward Thompson. Il ne faut pas le confondre avec Eric Thompson. Eric Thompson qui a écrit « Grandeur et décadence de la civilisation maya », c'est un mayaïste du XXe siècle. Non, Edward Thompson a été très actif, il a vécu pratiquement 40 ans au Yucatan, mais lui est bien du XIXe siècle. Il ne sait plus à raconter dans ses écrits comment il avait été amené à s'intéresser à ce Yucatan. Il disait que c'était uniquement par l'intermédiaire du continent perdu de l'Atlantide. Déjà tout gosse, il s'intéressait à l'archéologie. Il avait été attiré par cette science puisque dans sa Nouvelle-Angleterre natale, il retrouvait facilement des vestiges indiens, des pointes de pierre, des flèches. Et pour lui, eh bien, son meilleur plaisir, c'était de découvrir ces pierres taillées et d'aller les déposer dans le musée local, au musée local. Eh bien, un jour, il va tomber sur l'ouvrage de Stephens. Il va se passionner pour le sujet, il va rassembler toute la documentation qu'il peut trouver sur la civilisation maya, mais il se pose une question. Ces Indiens, si étonnants, est-ce que c'était vraiment les frères des hommes simples, des hommes qu'il avait pu découvrir lui-même en Nouvelle-Angleterre, ceux qui avaient laissé ces pointes de flèches, de pilons qu'il avait apportées au musée? Il se demandait si les Mayas et si les Indiens d'Amérique du Nord étaient bien les mêmes. Alors, comme il avait envie de répondre par la négative, il se demandait d'où il pouvait venir. Et c'est alors qu'il va élaborer une théorie extrêmement particulière. Il va même rédiger un article qui s'intitulait « L'Atlantide n'est pas un mythe ». Il va envoyer cette communication à la revue, dans une revue qui s'appelle « Popular Science Monthly ». Et suivant son hypothèse, la civilisation maya serait simplement un rameau détaché de l'Atlantide, hein, ce continent perdu qui aurait jadis disparu dans l'océan Atlantique d'après Platon et qui s'était enfoncé en l'espace d'un jour et d'une nuit. Bon, cette théorie, elle a fait sensation à l'époque, elle ne manquait pas d'audace. Et c'est alors que le président, le vice-président, aussi les deux personnages les plus importants de cette société des antiquités américaines vont estimer que Thompson conviendrait parfaitement au poste de consul du Yucatan. Un poste qui était vacant à ce moment-là, ils vont proposer sa nomination en lui faisant comprendre qu'il pourrait peut-être consacrer, il devrait même s'occuper un peu à l'exploration des cités en ruines et à l'étude de ses descendants contemporains des Mayas, de ceux qui vivaient encore au Yucatan. Alors là, Thompson est tellement content, il a de la peine à contenir sa joie, il va accepter avec enthousiasme ce travail qui était pourtant pénible, il se rappelait qu'il devrait affronter les rigueurs de la jungle, celles qui avaient été décrites par Stephens et Crosswood, et pourtant, eh bien, il va partir au Yucatan, il va dès son arrivée, négliger quelque peu sa femme, son enfant qui a à peine 2 mois, et lui, il veut vivre le plus possible avec les indigènes. Il va voyager sans équipage important, mais il va surtout partager les repas de ces gens-là, apprendre leur langue, gagner leur amitié. Il va travailler sur les fouilles pendant la journée, et puis le soir, il écoute les légendes. ces légendes indiennes qui sont racontées en général devant le feu de camp. Thompson est donc consul au Yucatan depuis 1885. Il va rester là pendant un bon quart de siècle au départ, dans cette région. Il va vivre du premier au dernier jour parmi ces Indiens. Il va sillonner tout le pays. Il va visiter chaque ancienne cité connue. Il va explorer chaque sanctuaire. Et il va vraiment faire de nombreuses découvertes, car il y avait plusieurs villes qui étaient encore totalement inconnues à l'époque. Et puis il continue aussi à rassembler cette documentation pour à propos de sa théorie sur l'Atlantide. Il va relire aussi en espagnol les fameuses relations des choses du Yucatan qui avaient été écrites par Diego de Landa, un de ses premiers archevêques du Yucatan, celui qui avait créé les autodafés les plus impressionnants, qui avait détruit tous les codex mayas à son arrivée. Alors, cet auteur parlait d'un puits sacré, le puits des Itzas. Ce puits sacré qu'on revoit sur notre carte dans le colloque à la page 152 et qui est mis sous le nom de Cénote des Sacrifices, qui se trouve un tout petit peu en dehors du site de Chichen Itza. Alors, les textes de Landa va attirer son attention. Il va lire ceci.
Tenía delante la escalera del norte algo aparte dos teatros de cantería. Va desde el patio, enfrente de estos teatros, una hermosa y ancha calzada hasta un pozo como a dos tiros de piedra. En este pozo han tenido y tenían entonces costumbre de echar hombres vivos en sacrificios a los dioses en tiempo de seca, y pensaban que no morían aunque no los veían más. Echaban también otras muchas cosas de piedra de valor y que tenían preciadas.
Donc si on traduit rapidement, il dit que de la cour qui faisait face au théâtre, il y a donc deux plateformes de pierre qui se trouvent devant le temple principal, devant le temple de Kukulkan, depuis le Castillo, donc il parle de la plateforme de Vénus. Il dit qu'il y a aussi une large et belle allée qui mène à un puits qui est distant de la portée de deux fois un jet de pierre. Et qu'ils avaient la coutume de pousser des hommes vivants dans ce puits ainsi que des jeunes filles en sacrifice aux dieux pendant la période de sécheresse. Et ils croyaient que ces victimes ne mouraient jamais, bien qu'aucune d'elles ne soit revenue. Ils y jetaient également, et ça c'est important, beaucoup d'objets précieux et tout ce qu'ils estimaient particulièrement. Donc Thompson a son imagination qui s'enflamme. Il se représente la cérémonie. Il voyait ces mayas qui défilaient solennellement, qui descendaient les marches du temple de Kukulkan, qui passaient ensuite le long de cette voie sacrée devant le temple de Vénus. Il entendait la musique des tambours, les flûtes, les sifflets. Il s'imaginait aussi le moment où l'on précipitait ces guerriers captifs, ces vierges, et puis ces richesses dans le cénote afin d'apaiser la fureur des dieux. Donc, il n'arrive absolument pas à se libérer de l'idée que ces eaux vertes, comme les décrivait Landa, ces eaux profondes, avaient reçu des choses fantastiques. Il s'était promis, surtout, d'explorer ce puits, de lui arracher son secret. Donc, peu après sa nomination à Chichen Itza, enfin, dans la région de Mérida, il va s'arranger pour visiter, mais surtout pour mieux comprendre ce site archéologique. Oh, c'est une expédition inoubliable. Il va consacrer sa vie entière à l'exploration de Chichen Itza, et pourtant c'est cette première minute qui a beaucoup compté pour lui. Il est arrivé un soir de pleine lune. Il voyageait déjà depuis des jours à travers la jungle. C'est sûr qu'il n'y avait pas de route à l'époque, il était épuisé, il somnolait un peu sur le col de sa monture, brinque-ballante, et soudain, il a entendu son guide qui criait, qui poussait une exclamation. L'Indien montrait quelque chose en face d'eux. Thompson va lever les yeux. Alors là, il va se réveiller instantanément, et devant lui, il voyait s'élever un bâtiment au sommet d'une colline escarpée. Il voyait quelque chose qui ressemblait vaguement à un temple grec. Et au fur et à mesure qu'il s'en rapprochait, l'édifice semblait grandir et il ressentait une sorte de... Il décrit lui-même une sorte de douleur physique, comme si son cœur, ayant manqué quelques battements, était reparti au galop pour les rattraper. Donc il avait reconnu le temple de Kukulkan. Malgré sa fatigue, Thompson ne songeait absolument pas à se reposer. Le guide était totalement éreinté. Eh bien, il va desseller les chevaux, il va s'effondrer, il va carrément dormir près des montures. Mais notre jeune consul, Thompson, va au contraire gravir rapidement les marches qui conduisaient au temple. Naturellement, il y a encore des arbres, des broussailles qui envahissaient toute la colline, car ça ressemblait plutôt à une colline. Et c'est à bout de souffle qu'il va arriver au sommet, à presque à 30 mètres d'eau, à 27 mètres plus exactement. Et là, devant lui, se trouvait ce sanctuaire avec ses portails, ses entrées où pouvaient accéder les prêtres, et il regardait bien ce superbe
temple, il distinguait dans l'ombre ses bas-reliefs et cette beauté assez particulière. Il se rappelait aussi, il s'imaginait ce culte qui était oublié depuis longtemps. Et il écrit aussi « Fallait-il s'étonner ?»
Si mes genoux tremblaient légèrement et si je me retournais avec appréhension, prêt à subir la colère superbe de la divinité, moi dont les regards infidèles avaient profané le temple. En fait, il était envoûté. Et puis, il commence à regarder cette ville morte, avec ses pyramides qui dépassent la jungle, le temple des guerriers. Tout ça, sous cette lumière extrêmement douce de la lune, cette lumière bleutée, ces ruines qui sont très pâles, très claires, la couleur du calcaire est presque blanche sous la lune. Ça m'est arrivé de visiter plusieurs fois ce site sous la pleine lune. Je vous assure qu'on se rappelle de ces silhouettes qui se découpent sur ce ciel, vraiment un ciel noir, un ciel d'encre avec ses millions d'étoiles. Et soudain, il est là au sommet, son regard va s'arrêter, se figer. Il découvre l'allée qui part du temple de Vénus. Il découvre à travers ses broussailles aussi l'endroit où se trouverait ce bassin noir. Il descend, il longe cette allée, et en un éclair, il a compris. Oui, ce long ruban, c'était bien cette voie sacrée. Et le bassin qui est au bout, c'est le puits des sacrifices dont avait parlé Diego de Landa. Ainsi, dès ses premières lectures, Thompson avait eu le pressentiment qu'il devait se consacrer entièrement à Chichen Itza. Mais maintenant, il en avait vraiment la certitude. Il voulait rester ici. En tout cas, il savait qu'il devait repartir, maintenant il y reviendrait. Et il voulait pénétrer tous les secrets de Chichen Itza. Il y a encore eu plusieurs années, d'autres recherches, d'autres explorations qui vont le retenir pratiquement 25 ans. Le retenir avant de pouvoir exécuter son projet. 25 ans d'économie qui vont lui permettre d'acheter la plantation, cette plantation abandonnée dont les limites englobent la ville, ce site archéologique qu'il rêvait de fouiller. Il va s'y installer dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui la Hacienda Thompson. Il va se lancer dans l'aventure la plus extraordinaire d'une vie qui n'avait été faite que d'aventures, en fin de compte. Eh bien, nous allons vivre maintenant celle du puits, ce puits qui va livrer son secret.
Porque en tus ojos llenos de encanto veo una lágrima de pesar. Si tú bien sabes que te amo tanto, que sufro mucho al verte llorar. ¿Cuál es la causa de tus enojos? ¿Qué hace a tu llanto raudo brotar? Ven a mis brazos, seca tus ojos, me pones triste. Cuando en tus ojos se transparentan tus lagrimitas como el cristal, siento al beberlas sabor de hieles, sabor de acíbar. Por Dios, no llores más.
Thompson vit maintenant dans son hacienda. Il va répertorier rapidement tous les grands bâtiments de Chichen Itza. Il va surtout découvrir un second cénote. Prenons notre colloque pour quelques instants à la page 152. Le cénote de Xtoloc se trouve en plein centre. Les pentes en sont déjà beaucoup plus douces. On peut y accéder aujourd'hui sans trop de difficultés. On peut aller carrément jusqu'au bord des eaux. Donc, il s'est rendu compte que celui-ci ne servait qu'à prendre l'eau potable à l'époque des Mayas. Qu'il devait bien y avoir des escaliers, enfin une possibilité d'y descendre d'une manière courante et qu'il servait à alimenter le site. Tandis que l'autre, celui qui est tout au nord, qui est presque abandonné en dehors du site, au bout de son allée, cette allée qui fait bien penser par des constructions, par la petite plateforme qui est au bout, cette façon de l'avoir posée juste en face des plateformes de Vénus et du Castillo, celui-ci, c'était vraiment un cénote différent, un cénote qui l'attirait irrésistiblement, qui avait des eaux bien différentes et qui n'était pas du tout accessible par le côté terrestre. C'est-à-dire qu'on avait vraiment toutes les bordures. Il se rappelait le soir où il était venu sous la pleine lune, on ne voit que des plaques de calcaire blanc, ces plaques blanches qui descendent jusqu'à l'eau.
Et puis on se rend bien compte que c'est pratiquement impossible d'aller jusqu'à l'eau. On se rend compte aussi que la nuit, c'est peut-être encore là où c'est le plus impressionnant. Il y a ces milliers de crapauds buffles qui sont là en bas et qui chantent carrément. Et puis il y a aussi ces millions de lucioles qui parcourent la jungle et qui descendent dans le puits. Enfin, un éclairage absolument féerique. Non, celui-ci était bien différent. Alors,
il s'y rend souvent. Il se place au bord du puits, sur cette petite plateforme, devant le petit hôtel qui est au bord. Et là, il rêve, il réfléchit, il calcule, il prend des mesures, il fait des sondages.
Mais il est aussi très consciencieux. C'est un archéologue qui savait très bien qu'il n'arriverait pas à réaliser tout de suite son grand projet.
Donc, il sait très bien qu'il faut d'abord un peu mieux connaître l'emplacement, déblayer le terrain, étudier systématiquement le site. C'est pas peu dire qu'à Chichen Itza, à son sommet, enfin au moment de sa puissance, était une cité énorme. Au Xe siècle, il y avait des bâtiments partout. Et lui en a retrouvé pratiquement sur 5 km carrés des milliers de pierres qui étaient sculptées, des colonnes qui jonchaient le sol de toutes parts, des édifices énormes avec des pierres sculptées non seulement dans la pierre, mais aussi enduites de stuc. Donc, il était ridicule de vouloir d'abord résoudre son mystère, connaître son puits sacré, non. Mais malgré tout, il ne perdra jamais de vue cet objectif qui avait déterminé, en fait, l'achat de cette plantation. Il était formé d'une façon particulière. Il n'est pas vraiment rond, il est ovale, et le plus grand diamètre mesure 62 mètres. C'est énorme. Ses bords s'enfoncent à pic dans les eaux. Thompson en avait déduit que les Mayas avaient peut-être aménagé un peu ce puits, afin qu'il soit encore plus escarpé, plus raide, qu'il descende plus rapidement vers les eaux. Et puis ils avaient aménagé aussi ce petit temple au bord. En fait, tout ceci était fait dans une dépression naturelle, car les cénotes au Yucatan, ce n'est simplement qu'un renfoncement de la couche calcaire qui s'effondre tout à coup et qui fait découvrir ces immenses nappes phréatiques qui recouvrent tout le Yucatan, enfin tout le dessous de la surface du Yucatan. C'est une terre qui ressemble à des terres jurassiques et l'eau se trouve juste en dessous. C'est une immense péninsule qui un jour s'est simplement surélevée d'une quarantaine de mètres et qui a surgi de la mer. Mais dessous, il y a toujours et partout de l'eau. Bien, alors on a dit 62 mètres pour le diamètre, et il y a à peu près 22 mètres depuis le bord jusqu'à la surface de l'eau. La hauteur la plus haute, si on prend le fond du puits, on arrive presque à 27 mètres. Alors, ces jeunes filles qui étaient offertes à Nahotchiumachak, le dieu de la pluie qui était précipité avec violence depuis l'hôtel, elles faisaient donc une chute de 22 mètres avant de s'enfoncer dans ces eaux. Alors, Thompson est un peu là d'attendre, il a déjà défriché passablement, il décide finalement de réaliser son projet. Il veut absolument plonger dans le puits pour en ramener la preuve formelle des sacrifices dont parlait Diego de Landa, mais aussi, peut-être, quelques trésors.
L'entreprise était tout à fait hasardeuse, il le savait bien, et seul, sans moyens financiers, sans connaissances mécaniques, il devrait affronter des risques dont l'enjeu restait tout à fait incertain, mais il avait une foi absolument inébranlable, celle qu'aurait pu avoir un Schliemann, et il n'hésita pas. Non, il a été ramené aux États-Unis, il a été rappelé plus exactement pour participer à un congrès scientifique. Après la session, au cours d'une réunion amicale, il va exposer très calmement son projet, à sa manière. Bon, il parle des traditions du puits, il explique comment il compte prouver la véracité de ses textes anciens, ses textes du XVIe siècle. Mais cette déclaration fait sur l'auditoire plutôt l'effet contraire. On dit carrément qu'il veut mettre fin à ses jours, qu'il veut se suicider. C'est une entreprise impossible. Mais Les discours, les protestations restent tout à fait vains. Thompson ne voulait pas renoncer. Il va même passer à Boston en rentrant pour obtenir des subsides. Il va acheter une drague, il va prendre quelques leçons, des leçons de plongée sous-marine, car il se doutait bien que si le puits contenait les moindres vestiges, ceux-ci se trouveraient tout à fait hors d'atteinte d'un simple plongeon. Il fallait draguer, il y avait de la boue, des feuilles, des pierres, des détritus qui s'étaient certainement accumulés dans le fond depuis plusieurs siècles. Donc il faudrait sérieusement préparer le terrain avant de remonter un butin éventuel, un butin intéressant. D'autre part, il se préparait à la partie la plus délicate de l'opération, c'est-à-dire il savait d'avance qu'une fois déblayée cette boue, il y aura encore passablement de problèmes, puisqu'il faudrait peut-être vraiment plonger pour aller chercher des objets. Donc, dès son retour à Chichen Itza, il va se mettre au travail. Il avait calculé l'emplacement de ce qu'il avait appelé dans son ouvrage la zone fertile du puits sacré. Il avait même fabriqué des postiches en bois, des mannequins de la taille, du poids d'un indigène moyen. Il les avait poussés plusieurs fois dans l'eau, il les ramenait avec une corde. Il avait donc déterminé exactement le point de leur chute, qui était devenu pour lui le site le plus précis, le meilleur, où se trouveraient donc les témoignages des sacrifices. Et puis, il va installer sa drague de façon qu'elle puisse atteindre exactement ce point donné. Alors, on voit maintenant ce grappin d'acier qui se balance, qui s'enfonce dans l'eau et qui en retire d'abord du bois pourri, des feuilles mortes, des morceaux de roche. Et il redescend, il répète inlassablement son mouvement. Il dit aussi que ça a duré des jours et des jours, et que la drague remontait des dizaines et des dizaines de fois, mais qu'elle ramenait toujours monotonement, elle ramenait uniquement de la vase, des branchages, de la vase, encore de la vase. Et une fois, l'énorme grappin a même ramené un arbre entier, et puis encore un autre, et puis il y a eu les os d'un cerf, les os d'un jaguar, qui étaient tombés certainement par hasard dans le puits, mais le plus souvent, c'était de la vase. Alors bien sûr, sa patience va s'épuiser, il a bientôt perdu tout son optimisme, et il s'est demandé s'il avait entraîné tous ses amis dans cette aventure, qu'il les avait fait dépenser tellement d'argent sans résultat, où il trouvait ça un peu triste, et il se trouvait même un peu ridicule. Mais finalement, tout à la fin de ce dragage, au sommet d'un tas de boue, la boue avait une couleur chocolat comme ça, il a aperçu deux petits objets ronds, deux objets blanc-jaunâtre. On aurait dit une espèce de substance résineuse. Alors Thompson a pris une de ces boulettes, c'est des boules qui faisaient à peu près 5-6 cm de diamètre, et il a même eu le courage de goûter cette matière. Ça lui disait rien de particulier. Et tout à coup, il a eu l'idée d'en mettre juste un morceau dans le feu. Et là, c'est le miracle. Une odeur délicieuse s'exhale. Et tout à coup, alors là, il repense à cette chronique maya. Il repense à ces textes anciens. Et il relit, par exemple, une partie du Chilimbalam, de ce Chilimbalam où l'on raconte « Autrefois, nos pères brûlaient la résine sacrée, pomme, dont la fumée capiteuse portait leur prière aux dieux habitant le soleil. » Donc ces blocs qu'il avait trouvés, c'était de l'encens maya. C'était du copal. Alors à partir de ce jour, pendant des mois, la drague va recommencer, elle va ramener régulièrement son chargement de boue, mais également des pièces intéressantes. Des vases, des encensoirs, des pointes de flèches, des pointes de lance, aussi des haches, des marteaux de pierre, des disques de cuivre, des clochettes, qu'est-ce qu'il a trouvé encore, des bouchons d'oreilles, des pendentifs d'or, des fragments de jadéite. Et alors le document qui sera vraiment important, le plus cruellement révélateur. Enfin, il a ramené plusieurs squelettes de jeunes filles et de jeunes garçons. Donc, chacun de ces détails venait maintenant confirmer la réalité de ces anciennes traditions qui avaient été transmises par les textes comme ceux de Diego de Landa qu'il a écrit à la fin du XVIe siècle. Alors, lorsque la drague n'a plus rien ramené, si ce n'est quelques fragments de roche, la croûte rocheuse, carrément le fond du puits, Thompson a compris qu'il avait terminé son office et maintenant, eh bien, la seule chose qui restait à faire, c'était de descendre carrément, de plonger et de rechercher dans toutes les petites anfractuosités du fond les dernières pièces du trésor. Et c'est alors que l'archéologue va revêtir son scaphandre, qu'il va explorer lui-même les profondeurs du puits. Et avec une patience infinie, il va... Beaucoup de courage aussi, c'est vrai, parce que les eaux sont absolument obscures, on ne voit absolument rien dès qu'on est à quelques centimètres sous l'eau. Il va réussir à ramener encore plus de 300 objets en or. Il y avait symboles,
superbe, des coupes aussi, 40 assiettes plates, une vingtaine de bagues, une centaine de clochettes, des petites clochettes en or, des quantités de fragments de pièces variées, des fragments aussi impressionnants que ceux que je vous ai mis dans le colloque à la page 156, ces deux superbes disques en or qui vont concrétiser, encore une fois, le sacrifice humain, puisque le plus beau nous décrit un guerrier allongé et avec des nakom, les sacrificateurs de chaque côté qui lui tiennent la tête et les jambes, et le personnage principal qui est au centre avec un couteau d'obsidienne et qui lui ouvre carrément le poitrail afin d'arracher son cœur. Ça, ce sont des disques qui ont été importants puisqu'ils nous décrivent ce sacrifice humain à l'époque toltèque. Et puis celui d'en dessous alors est aussi intéressant puisque à gauche on a affaire à des guerriers toltèques et à droite à des guerriers mayas. Donc c'est la prise de la région Maya par les guerriers toltèques venus du nord. Des témoignages extraordinaires. Alors tous ces objets, il y aura encore des centaines de perles, des pendentifs, des bijoux qui toujours sont en jadéite. Et il a trouvé des incrustations de turquoise, des statuettes, des céramiques, des couteaux de sacrifice. Et oui, pour concrétiser encore une fois ce sacrifice, il a retrouvé des couteaux entiers, des pointes de lance très bien travaillées. Donc tout cela valait naturellement une fortune, des millions et des millions de nos francs. Mais il n'était pas très intéressé, bizarrement, par cette valeur financière. Bien sûr, il a pu rembourser ça en son expédition, mais il était très important aussi de s'imaginer l'apport historique que cela représentait. Et il apprenait ainsi en quelques jours, il apprenait au monde scientifique beaucoup plus qu'on ne l'avait fait auparavant sur les Mayas, que toutes les fouilles antérieures. Beaucoup d'érudits vont considérer cette découverte archéologique comme la plus importante du siècle, pratiquement à l'égal de celle de la tombe de Toutankhamon. Et ces trésors, malheureusement, oui, ça, c'est le côté négatif de Thompson, vont être envoyés aux États-Unis. Aujourd'hui, ils se trouvent au Peabody Museum et ils n'appartiennent plus au Mexique. Il faudra attendre un nouveau dragage dans les années 60 fait par l'Institut national. Une fouille faite par l'Institut national d'anthropologie et d'histoire de Mexico pour qu'on retrouve encore quelques pièces que nous voyons encore au musée d'anthropologie.
Junto al pie del muro donde se sentaba cuando me esperaba había un rosal. Un rosal enfermo que no daba flores, pero que adornaba con verdes colores. Pero que adornaba con verdes colores. El blanco mural.
Thompson tenait assurément ses fouilles dans le puits sacré pour la plus grande réussite de sa carrière, mais juste après, il allait encore découvrir la tombe du grand prêtre. Prenons notre colloque à la page 152. La tombe du grand prêtre se trouve à gauche. Elle ressemble énormément au Castillo. Mais elle est beaucoup plus petite, elle fait 13 mètres de haut. Bien, débarrassant le temple, en le nettoyant au sommet, il a découvert tout d'abord deux dalles qui étaient mal ajustées. Il les a faites soulever, et dessous, il a trouvé une première salle et deux squelettes. Deux squelettes d'ossements humains qui avaient été à demi dévorés. Et puis, il les a fait d'abord enlever, il a été très déçu après avoir nettoyé le sol, mais il a quand même trouvé une autre dalle assujettie. Il l'a levée, et comme la première fois, il a retrouvé un puits et à l'intérieur un squelette. Il va faire enlever les os, il va déblayer, il va retrouver une nouvelle dalle, il va redescendre en dessous. Ainsi, il va descendre successivement 5 fois. 5 chambres superposées avec des dalles, et chaque fois, il a trouvé des squelettes. Il est arrivé tout à coup au niveau de la pyramide, c'est-à-dire au niveau du sol. Il est arrivé sur le calcaire. Et là, on était en plein fantastique. Il avait d'abord trouvé un serpent dans la première salle, et maintenant il était au fond, il nettoyait cette salle, la dernière, la cinquième, et il décide quand même de poursuivre son travail. Mais il y a des cendres partout, alors ils doivent se coucher, ils doivent s'allonger dans une sorte de tunnel pour vider cette dernière pièce, et puis trouver enfin des escaliers qui descendaient plus bas. Ils vont nettoyer cette dernière salle, et enfin,
il trouve encore une nouvelle dalle mal assujettie, juste posée contre la paroi, et là, en pleine roche, eh bien, il décide d'arracher cette dalle. Il y arrive, et il y a un vent terrible, toutes les bougies s'éteignent, les ouvriers sont très inquiets, ils veulent partir en courant, ils ont peur de l'enfer, enfin l'enfer précolombien, bien sûr, et il découvre alors, une fois qu'on peut rallumer les lampes, un puits. Derrière cette dalle, ils ont failli tomber dans ce puits, puisqu'il s'est ouvert tout à coup et que tout s'est éteint, un puits de 17 mètres.
Alors là, ils vont utiliser des cordes, et le lendemain, il va descendre, il va même faire descendre sa chevière avec sa lampe, il va mesurer ce puits, 17 mètres, et lorsqu'il sera déposé au fond, eh bien, c'est encore une fois de plus une découverte incroyable. Il va retrouver tout d'abord une perle de jadéite de plus de 12 cm de circonférence, parfaitement régulière, polie, et juste à côté, une superbe amulette de même matière, un peu plus loin des fragments translucides comme de l'albâtre, un vase qui aurait contenu des bijoux de jadéite éparpillés sur le sol. Au jade, il y avait des objets qui se mêlaient ainsi, des objets de nacre, des colliers de perles, des vases, des gobelets. Thomson, il l'a prétendu plus tard, avait découvert le tombeau du serpent à plumes précieuses, Quetzalcoatl-Cuculcan.
Oui, même si les légendes prétendaient qu'il était parti ensuite au Mexique. Non, lui, il était sûr d'avoir trouvé la tombe du grand prêtre. Eh bien, il a eu autant de chance que Schliemann. Mais il s'est trompé, comme lui. Et même si Thomson nous permet de rentrer pour la première fois dans un domaine nouveau, dans un domaine scientifique, il n'a pas été un archéologue accompli. Non, il a un peu bâclé son travail, malheureusement. Mais enfin, pour les premières grandes découvertes mayas, il a fait un pas en avant extraordinaire. Et bien grâce à lui, ensuite, on va s'intéresser à cette civilisation. Grâce à des gens comme Stephens, comme Carswood, comme Thomson, les mayas vont enfin être découverts.
Éléphants à plumes et Chichen Itza. C'est seulement en 1695 qu'on va découvrir, ou peut-être redécouvrir, la civilisation maya. Grâce à un prêtre qui était parti avec deux moines franciscains, quelques indiens aussi qui étaient là pour servir d'escorte, il fallait partir pour une longue expédition, et ils étaient partis de Mérida, au Yucatan. Et depuis Mérida, ils avaient projeté de traverser toute la brousse du nord, de descendre encore plus bas, de longer les côtes du Quintana Roo, et ensuite de pénétrer dans ces jungles de plus en plus épaisses, de pénétrer au Petén du côté du Guatemala. Ce Petén, une terre vierge inconnue, que seul Cortés, on se rappelait, avait traversé quelques dizaines d'années auparavant. On voulait pénétrer dans ce Petén pour rejoindre le lac Flores, ce lac qu'on appelait alors Petén Itzá, qui était justement le dernier bastion des Mayas. C'est là que vivait cette grande tribu des Itzas, ces Itzas qui étaient partis certainement du nord de, n'oublions pas, Chichen Itza, le puits des Itzas. Ces Itzas qui étaient donc descendus, qui partaient devant l'envahisseur et qui s'étaient réfugiés dans cette zone et qui avaient créé une petite civilisation, un dernier soubresaut de civilisation maya en pleine jungle. Avendaño, ces moines franciscains, voulaient donc christianiser ces derniers mayas. Ils se sont installés chez eux, ils ont été relativement bien accueillis au début, mais au bout de quelques jours, eh bien, on a prétendu qu'après tout, il serait peut-être pas si mal de les sacrifier, car on pratiquait encore les sacrifices humains, on pratiquait encore cette religion sanglante. Alors là, c'est la fuite, c'est la panique. Ces trois Espagnols, leurs aides encore s'enfuient. Ils partent du côté du lac. Ils arrivent là-devant, ils trouvent quelques pirogues. Ils montent dessus et à la hâte, ils traversent les eaux. Le lac Petén est tout de même assez large. Et de l'autre côté, ils s'enfoncent dans la jungle. Ils échappent enfin aux Indiens. Et après quelques jours, après de gros problèmes, ils mouraient presque de faim, ils découvrent quelque chose d'extraordinaire. Tout à coup, devant eux, ils découvrent une première pyramide, Tikal. La capitale du monde maya, le plus grand site maya que l'on connaisse. En 1695, Avendaño et sa petite équipe pénètrent dans cette cité incroyable, qui est mangée par la jungle depuis déjà plusieurs siècles, puisqu'elle a été certainement abandonnée au 9e, au 10e siècle de notre ère. Et puis on n'entend plus parler de ces gens-là. En 1697, les troupes espagnoles arrivent au Petén. Elles arrivent enfin à réduire ce petit bastion maya. Ils envahissent la région du lac Flores. On supprime Tayasal et tous les petits sites archéologiques qui sont autour. On rase les pyramides. Et puis on recherche Avendaño. On le retrouve. On retrouve aussi son rapport. Son rapport qui raconte la christianisation, qui raconte la découverte de Tikal. Puis on va classer ce rapport. Et Tikal, pour un siècle et demi, va être complètement oubliée. Elle va plonger dans l'oubli. En fait, au cours du XVIIIe siècle, l'opinion publique a beaucoup changé, en Europe surtout. On est persuadé que Cortés, que Pizarro, que les Monteros ont simplement asservi de petits royaumes barbares, mais qu'il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de civilisation dans cette région. Un historien écossais dit même que ni les Mexicains ni les Péruviens ne pouvaient prétendre s'aligner avec ces nations qu'on dit aujourd'hui civilisées. Des barbares, c'était tous des barbares, ces Américains, avant l'arrivée des Espagnols. Donc, ils pensent que dans un laps de temps aussi court, jamais des vestiges tellement vantés auraient pu disparaître. Ces légendes d'empires amérindiens, de cités, de palais, de temples, tout ça c'est du domaine du déraisonnable, de l'exagération, de l'impossible. Mais au même moment où ce fameux Robertson, cet écrivain écossais, a écrit ces lignes, eh bien on est en train de faire la deuxième découverte de cette civilisation. Oui, la deuxième découverte est déjà en cours, nous sommes en 1773, un groupe d'Indiens vient à Santiago, ils parlent avec un prêtre, ils racontent qu'ils ont vu une pyramide, qu'ils ont vu une tour, qu'ils ont vu des stucs, des dessins, des sortes de hiéroglyphes, enfin des choses bizarres. Le prêtre se rend sur le lieu, il découvre Palenque. C'est le second site que l'on redécouvre à cette époque. Nous sommes, je le rappelle, en 1773. Ce prêtre va écrire un rapport. On va ensuite envoyer des expéditions, surtout celle de Del Rio. Del Rio lui-même va écrire un livre après avoir pratiquement démoli tout le site. Il a supprimé des murs, il a incendié la forêt afin de pouvoir mieux remarquer ses palais, ses pyramides. Il a beaucoup abîmé le site. Ensuite, c'est un certain Valdec, Jean-Frédéric, comte de Valdec, qui en 1822 va illustrer ce même livre. Il va le traduire en anglais. Et après cette traduction, eh bien, ce sera encore un autre anglais qui va lire l'ouvrage pour la première fois, qui va s'intéresser tout à coup à ces précolombiens. C'est le vicomte Kingsborough. Kingsborough qui est anglais, mais aussi irlandais, et qui est un père, un lord même. C'est un garçon qui est un hurluberlu convaincu que tous les Indiens d'Amérique appartiennent en fait aux 10 tribus perdues d'Israël. Ça, c'est sa grande théorie. Eh bien, pour le concrétiser, cette théorie, il va utiliser Valdec, il va l'envoyer faire des dessins, faire des enquêtes en Amérique centrale, afin de pouvoir concrétiser sa propre théorie. Alors Valdec, il va y aller, il a déjà 60 ans, il va rester plusieurs années sur place, et pour faire plaisir à son
bienfaiteur. Il va non seulement dessiner sa jeune maîtresse indienne ou métisse qu'il fait toujours poser devant ses tableaux, mais il va aussi transformer la réalité. Il dessine les ruines un peu comme il les imagine et non pas comme il les voit. Il va même rajouter des statues avec des bonnets phrygiens. Il va dessiner dans les hiéroglyphes des têtes d'éléphants. Ah, nous y voici à ces éléphants. Ces éléphants à plumes, c'est le début d'un long cycle de théories relatives à ces éléphants mayas et surtout aux Indiens d'origine chinoise, asiatique, juive. Enfin, toutes les théories les plus farfelues vont surgir à cette époque. Il y a même un livre qui est écrit par un certain John Rankin qui est intitulé « Recherche historique sur la conquête au XIIIe siècle du Pérou, de Mexico, de Bogota, des Natchez, de Talomeco par les Mogols suivis d'éléphants ». Un titre merveilleux. Ce qui renforce encore ce mythe des éléphants qui vivaient autrefois en Amérique centrale. Bien, Rankin, il savait sans doute qu'il y avait eu des mastodontes, des mammouths, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années en Amérique, mais lui avait prétendu qu'ils avaient été domestiqués par les Mayas. Donc à l'époque historique. Non, et encore une nouvelle légende, un nouveau mythe qui est né à partir de cet ouvrage sur les Mogols suivis d'éléphants. Et puis il y a d'autres sources. Il y a cette source qui a été encore concrétisée par la découverte d'une stèle de Copan. Nous avons le colloque. Eh bien on peut le reprendre à la page 79 où l'on voit la stèle B. Sur l'eau de cette page 79, on remarque que cette stèle est bien gravée, mais que elle a au sommet deux motifs qui ressemblent étrangement, c'est vrai, à des têtes d'éléphants. Des éléphants avec encore de petits personnages, des cornacs qui seraient posés sur leur dos. Cette stèle de Copan, lorsqu'on l'observe un peu mieux, eh bien je crois qu'on peut voir aussi qu'il y a d'autres détails assez étranges. Si c'était des éléphants qui étaient gravés sur cette stèle, eh bien, leurs narines ne seraient pas placées au sommet de la trompe, c'est-à-dire à la racine de la trompe, mais en bas. Il y a encore un autre détail, leurs yeux sont bien gros, ils sont même entourés de plumes. Ah, ça c'était le départ du mythe des éléphants à plumes. On disait qu'après tout, il y avait eu des serpents à plumes en Amérique, pourquoi pas des éléphants à plumes? Non. Si on regarde bien le dessin, on voit bien qu'il s'agit de perroquets, qu'il s'agit de haras qui ont été stylisés. Ces haras qu'on retrouve toujours à Copan, comme on les retrouve aussi à l'intérieur de notre colloque, à la page, je crois, 159. Je l'ai mis pour le jeu de pelote, car effectivement, lorsqu'on étudie le jeu de pelote de Chichen Itza, on remarque qu'il y a eu des pièces pour la balle, mais aussi parfois, c'est le cas à Xochicalco, c'est le cas justement à Copan, c'est à la droite de la page 159, au centre droite, on voit bien cette tête de hara stylisée qui ressemble étrangement à celle de la page 79. Ce hara, il y en avait 6 en fait qui étaient posés sur les pans inclinés du jeu de pelote qui permettaient justement de concrétiser les 6 positions solaires de l'année et qui servaient certainement de but au jeu. Alors bon, à partir de ces dessins de Maudslay qui ont été faits en 1880, qui ramènent la stèle B, eh bien on recommence à parler des éléphants à plumes. Mais avec toutes ces imperfections de départ, avec ces dessins de Waldeck un peu farfelus, eh bien en 1838, ça lui permet quand même, grâce à sa publication qui se nommait Voyage pittoresque et archéologique dans la province du Yucatan, ça lui permet d'avoir une médaille de l'État français et surtout une bonne pension pour la fin de ses jours. Eh bien, il va passer une existence assez extraordinaire. Il va pouvoir se marier assez tard, puisque c'est à 84 ans qu'il va épouser une jeune femme de 17 ans, ce comte Waldeck. Et il va mourir à l'âge de 100 ans sur les boulevards de Paris en se retournant sur une jeune femme. Alors son bienfaiteur, Kingsborough, va lui aussi essayer de publier quelque chose. Il va dépenser une fortune, 40 000 livres sterling, pour publier Les Antiquités de Mexico, publication qui va sortir en 1848, et il tient toujours à mettre des reproductions de pictographies, des objets d'art aztèque que Waldeck a dessinés au Mexique et en Amérique centrale. Il va surtout exposer sa théorie sur les Indiens juifs. Malheureusement, Kingsborough ne paye pas son éditeur, il s'agit de 9 énormes volumes, il en est paru très peu, on les retrouve encore dans certaines bibliothèques européennes, et il va mourir en prison à Dublin, endetté, parce qu'il n'a jamais pu payer justement cette note d'édition. Alors, Waldeck, avec son voyage pittoresque, Kingsborough, vont tout de même éveiller l'attention peut-être du premier scientifique. Nous allons en parler tout à l'heure.
Mari, Mari, bendicita, reina del valle, tus colores de canela, de sol y cancán. Cuando vas a la jarana, llama la atención tu rosario de filigrana, lleno de ilusión. Mari, Mari, bendicita, reina del valle, tus colores de canela, de sol y cancán. Cuando vas a la jarana, llama la atención tu rosario de filigrana, lleno de ilusión. Mestiza, bordas tus mudanzas en blanco caneval, al ritmo jaranero y bello que es alma del maya. En tanto que entre sombras duerme la gran Chichen Itza, sueña tú como Nicleja. Mestiza, bordas tus mudanzas en blanco caneval, al ritmo jaranero y bello que es alma del maya. En tanto que entre sombras duerme la gran Chichen Itza, sueña tú como Nicleja.
Avant de parler de ce premier scientifique qui se nomme Stephens, cet Américain, cet avocat qui est né en 1805, je crois qu'on pourrait parler d'un de ses contemporains qui est né la même année dans l'État de New York où il va créer une véritable religion, une secte nouvelle dans cette Amérique qui a certainement eu l'occasion de connaître ses théories sur les premières tribus juives d'Israël, ces tribus perdues qui seraient arrivées en Amérique. Il aurait peut-être aussi lu ses premiers ouvrages. Dans les années 1820, Waldeck est au Guatemala pour les guerres d'indépendance et c'est là qu'il va pouvoir traduire les travaux de Del Rio sur Palenque. Eh bien lui va prétendre avoir eu une apparition sur la colline de Cumora près de Manchester dans cet état de New York et c'est là que Joseph Smith va recevoir des plaques en or qui lui auraient permis de connaître le livre. Le livre que Moroni, un prophète mort en 421 de notre ère, va lui offrir, lui permettre de traduire afin de connaître l'histoire de cette tribu juive d'Israël qui aurait disparu, qui serait partie au bord de la mer et qui aurait traversé le grand océan afin de venir peupler la terre promise, l'Amérique. Néphi, premier des prophètes, Moroni, dernier des prophètes, moins 600 avant Jésus-Christ, plus 421, mort de Moroni et réapparition en 1823. 7 ans plus tard, en 1830, il va publier le livre de Mormon, récit écrit sur plaque de la main de Mormon d'après les plaques de Néphi. Ce livre qui raconte non seulement cette histoire des Juifs d'Amérique, mais surtout qui permet de fonder l'Église de Jésus-Christ des Saints du Dernier Jour. Une histoire étrange, puisqu'il va même prétendre que Jésus-Christ est apparu en Amérique peu après sa mort, Jésus-Christ qu'on va confondre dans l'histoire précolombienne avec ce grand dieu blanc qui aurait bel et bien existé. On peut lire par exemple dans un écrit fait par les Mormons, le grand dieu blanc de l'Amérique ancienne vit toujours. On dit aussi que sous le nom de Quetzalcoatl, sous le nom de Viracocha au Pérou, sous le nom de Kon-Tiki en Polynésie, eh bien, ces noms, ces apparitions d'un dieu blanc barbu aux yeux bleus avec une grande robe blanche, selon les paroles des Mormons, eh bien, il ne s'agit rien d'autre de cette apparition faite à cette tribu juive au début de notre ère, cette apparition de Jésus-Christ qui serait resté quelque temps en Amérique afin de leur enseigner sa connaissance. Ainsi, l'histoire de Quetzalcoatl, l'histoire de Votan au Chiapas, de Gucumatz au Guatemala, de Viracocha, de Sumé au Brésil, de Bochica en Colombie, et bien tout ceci, ce n'est que le Jésus-Christ sous son apparition, au moment de son apparition, qui a été interprété par ces tribus précolombiennes. Et toute l'histoire des Mormons se situe à l'époque précolombienne. Il n'y a qu'à lire ce livre des Mormons, regarder les illustrations et voir qu'effectivement, à part des problèmes de métallurgie qui sont assez incongrus, eh bien, on retrouve un mélange de juifs babyloniens dans des ruines ressemblant à Chichen Itza, à Uxmal ou à Machu Picchu. Ainsi est née en 1830, à cette époque romantique, une nouvelle religion, une nouvelle secte aux États-Unis. Mais nous voulions parler du premier scientifique. Eh bien, nous allons découvrir la vie de Stephens et de son compagnon, Carswood.
Nous avons maintenant abandonné Waldeck et son ouvrage sur son voyage pittoresque, cet ouvrage qui a attiré l'attention de Stéphane, cet avocat qui a beaucoup voyagé. C'est un homme qui est resté célibataire jusqu'à la fin de ses jours, un homme petit, très sympathique, affable, très volubile aussi, un homme qui portait de longs favoris, une chevelure rousse, toujours en broussailles, un homme qu'on prétendait aussi exquis, très galant avec les femmes. Stéphane, un grand voyageur, c'est vrai, il a été à Paris, il est allé à Rome, en Grèce, en Russie, en Pologne, il a accompli même une randonnée très périlleuse, très dangereuse pour l'époque, puisqu'il a voulu absolument visiter les ruines de Petra, en Arabie. Il était parti du Caire, travesti en marchand musulman, jusqu'à Petra. Eh bien, il va rentrer ensuite à Londres, où là, il va rencontrer son futur ami, Frederick Carswood. C'est un Anglais, un dessinateur en architecture, qui, comme lui, sous un déguisement, bizarrement, avait aussi parcouru tous ces pays de l'Est, ces pays musulmans, uniquement pour croquer, on pourrait dire au péril de sa vie, ces monuments. Il voulait absolument dessiner ces monuments anciens de l'époque musulmane et même des époques antérieures. Et Carswood, il est plutôt flegmatique, c'est un homme très grand, très bien bâti, et qui était déjà très heureux lorsqu'il racontait ses histoires d'avoir pu échapper à ce second commandement de l'islam, d'avoir osé le violer sans avoir été arrêté par la loi musulmane. Ils vont se quitter à Londres. Stephens va rentrer aux États-Unis, il va d'abord écrire un volume important sur son voyage en Arabie. Il a été recommandé par Edgar Allan Poe, qui est déjà très connu comme écrivain à l'époque. Son ouvrage aura d'ailleurs beaucoup de succès, et on va écrire de nombreux poèmes à propos de Petra. Il y a par exemple cette phrase de Bergen, ce vers de Bergen qui est très connu lorsqu'il dit à propos de Petra, « Une cité d'un rouge fané à demi aussi ancienne que les siècles. » Bon. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'après avoir écrit son ouvrage, il est lui-même fasciné, Stephens, par ses avis un peu contradictoires. On parle beaucoup de ces ruines d'Amérique centrale et il décide d'y aller. Il décide d'y aller, mais il ne veut pas y aller seul parce qu'il aimerait bien avoir quelqu'un qui sache dessiner. Lui sait très bien écrire, mais il voudrait que Carswood l'accompagne. Alors il va réussir à convaincre Carswood de l'accompagner, justement. Ils vont partir ensemble. Stephens va bêtement se proclamer ministre des États-Unis auprès des fédérations d'Amérique centrale et les deux acolytes partent donc en 1839. Alors, il faut s'imaginer l'Amérique centrale à cette époque. Ce sont des pays déchirés. Il y a la guerre civile, il y a les cléricaux, les anticléricaux. Enfin, ils auront beaucoup de peine au Honduras à se rendre jusqu'à atteindre les ruines de Copan. Ils vont même échapper à une fusillade. Et puis arriver, eh bien, vraiment, ils vont surprendre le propriétaire d'une hacienda. Ils vont lui dire, écoutez, on vous donne $50. Ça, c'est Stephens qui a offert cette somme. Mais nous voudrions acheter ce bout de jungle inutile où se trouve ce site de Copan. Alors, le propriétaire est tout content. Il a fait une bonne affaire. Et c'est ainsi que Carswood va pouvoir s'installer pour faire ses croquis. Alors, pendant qu'il dessine, eh bien, son ami écrit. Et il décrit cette scène. Il dit que Carswood avait les pieds dans la boue, qu'il dessinait avec des gants pour protéger ses mains des moustiques. Il y avait des nuées de moustiques. Et malheureusement, ils avaient déjà redouté avant de partir que tous ces modèles à dessiner seraient extrêmement confus, qu'ils seraient très compliqués. Il disait que les sujets étaient si totalement nouveaux, si sibyllins, qu'il éprouvait à les reproduire les plus grosses difficultés. Bon, on le comprend quand on voit une stèle de Copan comme celle qu'on a vue tout à l'heure à la page 79, à la page 80, tout ça c'est des choses que Carswood a dû dessiner, à la page 81, à la page 82. Effectivement, c'était fort difficile. Mais des fois, il essayait d'utiliser une chambre claire pour essayer d'y voir plus clair, je sais bien le cas de dire, mais malheureusement, il n'était jamais très très satisfait. Bon, et puis, il se critiquait beaucoup mutuellement, et bon, il semblait toujours que chaque fois qu'il dessinait une idole, elle défiait véritablement Carswood. Et à côté, il décrit aussi que dans les arbres, il y avait toujours un ou deux singes, ces petits singes moqueurs qui étaient là pour embêter Carswood.
Palma, flor de los cielos, la calma y para siempre quedó mi vida sin una estrella, sin una palma.
Malheureusement, Stéphane ne pouvait pas toujours rester avec lui. Il devait se consacrer aussi à ses activités diplomatiques. Il a dû prendre contact avec le gouvernement central puisqu'il s'occupait de cette fédération centra-américaine. Mais il préférait écrire, bien sûr. Il préférait parler de ces moustiques qui les dévoraient, de ces mouches, de ces tiques, des accès de malaria qui vont les faire grelotter, qui vont les faire étouffer. Il va devoir apprendre l'espagnol aussi. Il va lire Gil Blas et Don Quichotte dans le texte pour se perfectionner dans cette langue. En fait, il ne parlait pas un mot d'espagnol en arrivant sur le sol du Honduras et au Guatemala. Et il se rappelle aussi de tous ces orages qu'ils ont subis, ces tremblements de terre, ces incendies de forêt. Il va observer les volcans, les cratères en activité. Il parle de ces embuscades avec des bandits qui les ont attaqués, qu'ils ont souvent dû même maîtriser, puisque parfois il a même fallu arrêter un capitaine de marine en folie qui voulait les tuer. Enfin, ils ont eu des aventures incroyables. Alors, Garswood, après avoir fini de dessiner les stèles et les bas-reliefs de Copan, va rejoindre Stephens à Guatemala. Stephens qui a bientôt fini sa carrière diplomatique, puisque malheureusement cette fédération va s'arrêter. Elle a vécu, elle est terminée après de grands conflits, après certains assassinats, après des conflits énormes qui vont se situer à Guatemala. Et oui, ils vont voir des crimes, ils vont voir également des exécutions, un monde qui ressemble étrangement à celui d'aujourd'hui dans ce pays d'Amérique centrale. Eh bien, Stephens, à partir de là, va pouvoir expédier toutes ses affaires de l'ambassade américaine. Il va pouvoir retourner véritablement à l'archéologie, et c'est là qu'il décide de partir vers le nord, de continuer le voyage, d'aller visiter Palenque. Et là, eh bien, il se rappelle aussi de cette piste terrifiante qu'ils vont devoir prendre au bord des falaises, ces problèmes qu'ils ont eus avec leurs mules, qu'ils devaient sans arrêt pousser au bord des précipices. Et à Palenque, ils vont devoir travailler encore longtemps. Il faudra d'abord supprimer tous ces arbres, il va falloir défricher afin de pouvoir exécuter les premiers croquis des ruines, et puis il y a toujours cette maladie, ces insectes, ces piqûres d'insectes qui les terrassent tous les deux. Plus tard, Stephens fera venir à Palenque un homme qui sera chargé de prendre, avec des plâtres de Paris, des moulages de toutes les sculptures. Un travail énorme, un travail peut-être le plus scientifique qu'a demandé Stephens. C'est fantastique, déjà en 1840, on puisse se préoccuper de la sculpture, mais malheureusement, ces moulages n'arriveront pas jusqu'à nous. Ils nous auraient été fort utiles, puisque énormément de stucs ont disparu à Palenque, mais un comité local de patriotes à Palenque va s'emparer de ces moulages. Ils vont même exiger une rançon de plusieurs milliers de dollars, et ils vont les briser. Ils vont les briser car la rançon n'arrive pas. Stephens n'est pas capable de payer une somme pareille. Et la science, l'archéologie précolombienne, va perdre un témoignage qui nous aurait peut-être aidé à mieux comprendre ce site, ce superbe site archéologique qu'est Palenque.
Peregrino de ojos claros y
avant de quitter les Chiapas, il serait bon peut-être de revenir juste pour quelques instants au colloque à la page 97. Sur cette page 97, on retrouve une gravure de Garswood qui a été faite lors de leur séjour à Palenque. Et là, bien, on voit un petit temple à trois portes. Il s'agit du temple des inscriptions qui se trouve au sommet de la pyramide des inscriptions. Eh bien, on comprend aussi la difficulté qu'ils ont eue simplement afin de pouvoir observer ce temple, de laisser la lumière pénétrer cette gangue végétale. Il a fallu supprimer certaines lianes, il a fallu certainement couper le sommet des arbres afin que la lumière descende sur ces trois portes et qu'on puisse voir enfin cette crête encore envahie par les racines de ces arbres.
Il faudra même attendre une centaine d'années avant qu'on connaisse véritablement le secret de ce temple, puisque c'est seulement entre 1949 et 1952 que Rousse-L'Huillier va pouvoir dévoiler au monde entier le secret de cette pyramide, puisqu'il va y découvrir le tombeau de Pacal Bouclier et ce trésor de jadéite. En laissant Palenque derrière eux, ils montent maintenant toute la côte du Yucatan afin de se rendre à Uxmal. Et c'est là que Carswood fera peut-être certains de ses meilleurs dessins. Malheureusement, il est très malade. Un véritable effondrement physique va l'handicaper. Il devra quitter le Mexique. Il devra retourner à New York, accompagné de son ami, bien sûr, qui, lui, est sain et sauf. Stéphane aura enfin le temps d'écrire, de terminer son ouvrage « Incidents de voyage en Amérique centrale, Chiapas et Yucatan » qu'il va pouvoir faire publier en 1841. Un ouvrage remarquable. Un ouvrage qui s'est vendu beaucoup mieux que le précédent, qui concernait Petra, et c'est peut-être aussi le plus attrayant de tous. Il était plus attrayant que tous les romans qui avaient été publiés à l'époque, et c'est, à mon avis, le récit de voyage le plus impressionnant de tous les temps. Alors, il faut l'avoir lu, c'est un ouvrage qui malheureusement n'est édité qu'en anglais, à ma connaissance, mais il nous permet de mieux comprendre non seulement leurs aventures, mais surtout les origines de ces Indiens d'Amérique, les origines de la culture maya. Stéphane, ça a été le premier qui a su décrire, réfuter les anciennes théories et décrire une nouvelle théorie qui, elle, est tout à fait scientifique. Il avait dit que d'innombrables volumes avaient été relatifs aux premiers peuples qui avaient vécu en Amérique. Il savait très bien que certains avaient laissé entendre que les habitants formaient une race à part. Il savait aussi que d'autres estimaient que c'était la plus ancienne race de la Terre qui avait vécu ici en Amérique et qu'elle provenait de ces rares occupants antidiluviens de la planète qui avaient été des rescapés du désastre au moment de Noé, et que certains avaient été anéantis, mais que eux avaient été sauvés, comme ne l'avaient pas été la plupart des espèces humaines. Il raconte aussi cet éventail, ces filiations, disons, des descendants de Noé, qui permettaient d'attribuer à certaines tribus l'honneur d'avoir pu peupler les Amériques. Il parlait, par exemple, dans l'Antiquité, des Juifs, des Cananéens, des Phéniciens. Il y a eu des théories sur les Carthaginois, les Grecs, les Scythes. Et puis, il sait aussi qu'à l'époque moderne, au cours de ces temps modernes, on prétendait que c'était plutôt les Chinois, les Suédois, les Norvégiens, les Gallois, les Espagnols qui seraient venus envahir cette Amérique. Il y a cette autre théorie concernant l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, qui ne formaient qu'un seul et même continent, qui aurait été secoué, enfin, disjoint par une secousse tellurique. Il parle aussi de l'Atlantide, cette île de légende qui aurait surgi du fond de la mer. Et puis, pour ne pas demeurer en reste, eh bien, il va même parler de cet Américain un peu hardi qui va reprendre l'avantage sur l'ancien continent et qui va même jusqu'à camper l'arche au cœur même de l'État de New York. Bien sûr, il se réfère à Joseph Smith, dont nous avons déjà parlé, ce fondateur de la secte mormon. Donc, il réfute toutes ces anciennes théories et il dit qu'en réalité, toutes les cités mayas appartiennent à la même civilisation. Il dit ceci en 1841. Il dit aussi que ces cités n'ont pas été édifiées par des Égyptiens ou par des visiteurs exotiques. Il dit que ces tribus qui ont vécu à l'époque sont tout à fait semblables à celles d'aujourd'hui, celles qui vivent au Yucatan. Il dit que ce sont ces petits hommes au teint bronzé, aux yeux bridés, qui ont été les fondateurs de cette grande civilisation. Eh bien oui, déjà à partir de 1841, Stephens avait raison. Le temps lui-même va donner raison à Stephens. Ils referont encore d'autres voyages. Ils vont explorer encore une nouvelle fois Uxmal. Ils vont revenir à Chichen Itza, qu'ils vont dessiner très précisément. Et puis il y aura encore une douzaine de sites qu'ils vont découvrir au Yucatan. Ils vont découvrir aussi ces routes mayas, ces Sacbehob, qu'ils comparaient à des routes romaines. Et après de nouveaux livres, d'autres voyages. Ils vont même tenter d'équiper un chemin de fer certains pays de l'Amérique latine. Enfin, des gens inépuisables. Un couple d'amis, des aventuriers qui vraiment ont donné beaucoup de leur personne. Et malheureusement, ils ont tellement donné que, dans la force de l'âge, Stephens va succomber à la malaria et Carswood va périr dans un naufrage. C'est ainsi que se termine l'histoire de ces deux grands aventuriers qui nous ont tout appris sur le début de cette civilisation précolombienne. On peut encore regarder ces dessins et lire leurs ouvrages avec autant de passion qu'en 1840. Et je crois que leur exemple est un exemple remarquable pour l'époque, qui n'avait encore rien de scientifique. Ils ont été pratiquement les premiers à lancer cette histoire précolombienne sur des voies qui ne seront que petit à petit éclairées.
Et je crois qu'il faut, il faut pouvoir les lire, il faut pouvoir les relire afin de mieux saisir l'importance de leur travail, une vie entière consacrée à dessiner sous le crayon de Carswood, une vie entière à écrire sous la plume de Stephens. Eh bien, c'est grâce à eux, justement, qu'on peut aujourd'hui arrêter de parler de ces éléphants à plumes des Mayas. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on peut parler de la civilisation Maya et de ses véritables origines.